Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie.
Tout ce qu'on crée, c'est une réponse à la violence.
Il faut pouvoir occuper l'espace.
L'évolution qu'on est en train de vivre.
L'archive, c'est notre mémoire.
Certains garçons trouvent une fille magnifique et la cachent du reste du monde. Mais moi, je veux être celle qui marche en plein soleil. Oh les filles, elles veulent juste s'amuser. Oh les filles, elles veulent, c'est tout ce qu'elles veulent vraiment, s'amuser. Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, nous recevons Morgane Giuliani à l'occasion de la publication du livre « Féminisme et musique, la pop de Madonna à nos jours » aux éditions Le Mot et le Reste. Nous étions accompagnés d'Élise van der Heijgen, la directrice du Grand Mix à Tourcoing, et d'Ellie James du groupe La Battue. Merci à La Rose des Vents pour cette superbe collaboration. C'est parti. Bonsoir Morgane.
Bonsoir.
Bonsoir Élise.
Bonsoir.
Et je vais dire bonsoir Ellie, qui est avec nous par le papier d'abord, et je vais tout vous expliquer. Cette fameuse rencontre, nous avions eu envie, au regard de la programmation de La Rose des Vents, de créer en fait un temps fort sur la musique, et évidemment, puisque nous sommes à l'Affranchi, sur les féminismes et les musiques. Il s'avère que le monde est très bien fait, et donc Morgane, tu viens de publier un livre, Féminisme et musique, de la pop de Madonna à nos jours, au mot et le reste. Il s'avère que Élise, en tant que directrice du Grand Mix, tu as reçu un concert co-organisé avec La Rose des Vents, donc c'était Lucie Antounès en octobre.
Ouais.
Et Ellie, avec nous, Ellie James, a joué un spectacle dans la programmation tout aussi en octobre de La Rose des Vents, qui s'appelait Dogo, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs, et qui est une chanteuse du groupe La Battue, qu'elle a elle-même créé. Donc, vous voyez bien ici, on est sur des énergies très complémentaires, puisque nous avons une journaliste autrice, une directrice de salle, une chanteuse, et une libraire, parce que normalement, tout devrait bien se passer. Donc, je parle d'Ellie comme cette présence-absence, puisqu'en effet, malheureusement, elle n'est plus dans la région. Son spectacle est passé. Donc, on s'est permise de lui poser des questions avec Anne par écrit. Et je vais, tant bien que mal, décidément, je ne me suis pas facilité la tâche pour aujourd'hui, de retransmettre ses réponses d'une manière fluide et agréable, avec les vôtres, évidemment. Donc, déjà, bienvenue. C'était une longue introduction, mais j'espère que tout est clair et bien carré, pour que tout le monde ait bien sa place dans cette belle discussion qui s'annonce entre nous. Est-on prête à y aller dans ce fameux sujet, féminisme et musique ?
C'est parti.
C'est parti. tu commences ton livre, et c'est vrai que je vais le signaler directement, les façons dont on le déroulé en fait de cette rencontre vont assez bien suivre ton déroulé. Donc merci pour ce travail, puisque nous allons commencer par une question primordiale, quelque chose que je meurs de vous demander. Quelles sont en fait les chanteuses qui ont marqué votre vie ?
Eh ben, c'est une très bonne question, qui est un peu difficile aussi. On en parlait tout à l'heure avec Élise, où moi, par exemple, quand j'étais ado, j'écoutais pas de chanteuses, en fait. Parce que j'écoutais du rock, et qu'il n'y avait pas vraiment de filles, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait peut-être Amy d'Evanescence, ou Avril Lavigne, oui, mais il n'y en avait pas tant que ça, quoi. Du coup, moi, j'ai plutôt commencé à écouter des chanteuses dans ma vingtaine. Je dirais par exemple alors une chanteuse d'un groupe américain qui est pas très connu, qui s'appelle Best Coast, elle s'appelle Bethany Cosentino, qui m'a beaucoup marquée parce que très charismatique et déjà cette propension à parler de l'intime qui me parlait beaucoup. Et puis bah après un peu comme tout le monde, Beyoncé, ça a été un peu la révélation lors de son tournant féministe en fait en 2012-2013 pour moi. Et puis, j'ai aussi une affection toute particulière pour Taylor Swift, je crois qu'on peut le dire. Voilà. Voilà, à peu près pour celles qui me viennent là en premier comme ça, mais il y en a plein d'autres, bien sûr.
Et toi, Élise, alors ?
Et moi, en fait, j'avais réfléchi à cette question sur ado, qu'est-ce qui nous avait marqué ? Donc, je suis restée là-dessus, je n'ai pas trop réfléchi à l'actuel. Mais bref, je vais le dire avec le même accent que quand j'écoutais ça à 14 ans, j'étais assez fan de Britney Spears. Et ça, clairement, ça a marqué mon adolescence. Teinté d'alizé par-ci par-là. Et sur l'après, il y a eu vraiment plus le virage d'écouter de la musique indé et des tas de choses, mais moins. Enfin voilà, j'ai eu assez vite, j'ai eu moins ce rapport de starification des personnes et de fans, et plus à écouter des tas de choses différentes. Et du coup, j'ai pas une chanteuse clé là que j'aurais à citer qui aurait marqué tout mon parcours en musique, mais plutôt des tas de groupes avec des tas de meufs trop cool dedans. On y reviendra.
Du côté d'Elie, donc, elle nous a parlé de deux artistes, et notamment, alors je l'avais un peu oublié, mais c'est vrai que depuis qu'elle en a parlé, j'ai sa chanson dans la tête, et on va, à mon avis, vous la transmettre aussi. Et donc, c'est Shania Twain, pour son le premier album, enfin c'est même pour Elie le premier album qu'elle possédait. Et ensuite, les Destiny's Child, et avec notamment, évidemment, Beyoncé. Et c'est vrai que je me suis prêtée au jeu aussi, et donc, moi aussi, c'était Britney. Je crois que le monde entier le sait depuis que j'ai fait ma chronique sur son livre sur les réseaux. Ou en tout cas, si vous ne le savez pas, vous n'êtes pas des fans de la franchise librairie. et j'avais répondu également Beyoncé aussi, d'un point de vue engagement. Et c'est vrai que cette différence-là, en fait, dans ton livre, hein, tu vas d'abord parler de Madonna, ensuite ça va être Beyoncé et Taylor Swift.
Les Spice Girls, juste avant aussi.
Oui, c'est ça, les Spice Girls, je savais bien. Comment les oublier. Et donc, ce petit déroulé-là, en fait, au final, on se rend compte que ce sont des grandes figures que l'on connaît tous. Enfin, il y a quelque chose quand même, les Spice Girls, ça a marqué toute son époque. Britney Spears, ça a marqué toute son époque. Beyoncé, n'en parlons pas. Ouais. Mais de ce fait, il y a quand même une impression parfois aussi que c'est assez réducteur. C'est-à-dire que quand on dépasse ces noms-là, en fait, peut-être qu'on en connaît beaucoup moins. Donc, comme tu disais, toi, tu n'avais pas forcément ces références-là au début. Et après, toi, tu es partie sur d'autres styles musicaux. Donc là, les groupes dont on parle, enfin, les chanteuses, c'est spécifiquement de la pop. Donc, qui vont vraiment, en fait, être plus importantes dans les mouvements populaires. Ouais. Donc, tu as pu remarquer ça. C'est parce que les exemples que tu prends sont extrêmement populaires. Mais en vrai, est-ce que tu as... aurait pu en prendre d'autres. Non, c'est les plus connus. Enfin, c'est ceux qui ont celles qui ont réussi d'une certaine manière à percer, non ?
Ouais. En tout cas, enfin, mon livre, il est organisé un peu en deux temps. C'est-à-dire qu'il y a un premier temps où je me focalise plutôt sur des artistes en particulier, donc Madonna, les Spice Girls, Beyoncé, Taylor Swift. Et ensuite, sur les chapitres suivants, j'ouvre sur différentes artistes parce qu'aujourd'hui aussi, elles sont beaucoup plus nombreuses à se dire féministes. Mais à l'époque, elles étaient un peu, c'était un peu des précurseurs. Précurseuses, pardon. Et elles étaient un peu seules dans leur domaine aussi, au sens où Madonna, bien sûr, c'est pas la première à venir nous parler de sexualité et à déranger, bousculer, mais c'est celle qui a eu le plus d'impact, notamment parce qu'elle est arrivée en même temps que le clip vidéo. Les Spice Girls, ben, c'était un des premiers girls bands, il y en avait déjà eu avant dans les années 60, etc., mais un des premiers girls bands modernes, pareil, qui, avec le clip vidéo, s'est imposé dans le monde entier, etc. Donc, l'idée, c'était de montrer en quoi ces femmes ont été vraiment des défricheuses. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, elles sont beaucoup plus nombreuses, et notamment aussi à se revendiquer du féminisme. Donc, finalement, mais pour leur époque, ouais, elles étaient seules, ouais, ça c'est clair. Mais elles ont ouvert la voie à beaucoup d'autres.
Lorsqu'on entend, et ce qu'on lit surtout beaucoup dans ton livre, c'est la façon en fait dont ces femmes ont été présentées en tant qu'artistes au monde. Et c'est vrai que tu parlais de Britney, Elise et d'Alizé. Et quand tout de suite, en fait, on pense à Alizé, c'est Lolita, c'est des clips très suggestifs, etc. Et c'est vrai que quand on les met toutes en commun, à différents endroits de conscience. Parce que c'est vrai que quand on parle de Britney, par exemple, moi, je me souviens très bien de m'être dit « elle est trop sexuelle ». Enfin, je suis trop jeune. Enfin, je sentais bien qu'il y avait un décalage entre nous à un moment donné. Et pour autant, quand on lit maintenant ce qui s'est passé, on se rend compte que ce n'était pas du tout de son fait, qu'il y avait quand même quelque chose de l'industrie musicale qui l'a poussée à aller vers ça. Et enfin, pour moi, Alizé, c'est un peu l'image que j'aurais d'elle. Alors évidemment, je n'ai rien lu sur elle et elle ne m'en a pas parlé, donc je parle peut-être trop vite, mais est-ce qu'il y a quand même ce truc en commun de dire, bah, au final, elles étaient des femmes, donc toujours dans l'hypersexualisation, et que et tu en parles beaucoup aussi, que d'une certaine manière, en fait, c'était leur, leur monnaie d'échange, en fait. C'était leur façon d'être, de gagner de l'argent, de faire de l'image, etc.
En ce qui concerne Britney, en fait, c'est un peu plus alambiqué que ça, au sens où, si tu veux, quand tu regardes des interviews d'elle et tout, par exemple, elle va expliquer que dans le clip de Baby One More Time, qui se déroule dans un lycée où elle est habillée en écolière sexy, par exemple, c'est elle qui a eu l'idée pour que ça se passe dans un lycée, et c'est elle qui a voulu montrer son nombril. Donc c'est un peu compliqué parce que, alors, Britney, c'est une victime de l'industrie musicale, clairement, enfin, tout ce qui s'est passé autour de sa tutelle et même avant le montre, mais en même temps, elle avait, je trouve, quand même cette agentivité, entre guillemets, où cette sexualité, elle y allait plus ou moins par elle-même, elle voulait en jouer. Après, c'est toujours pareil, c'est dans quelle mesure on a envie de faire quelque chose parce que la société nous pousse à le faire, et est-ce que c'est un choix très émancipateur? C'est très compliqué de dénouer ces nœuds-là. Mais même encore aujourd'hui, par exemple, tu vois, elle interpelle beaucoup par ses posts un peu bizarres sur Instagram, ou genre, je crois encore hier, elle a posté une photo d'elle nue sur la plage, mais pour elle, c'est montrer son émancipation et montrer qu'elle est libre. Donc moi, j'essaye de faire attention, par exemple, avec la figure de Britney, à pas trop dire « la pauvre, on l'a poussée à se sexualiser, c'était terrible », parce que elle l'a voulu aussi en partie, et elle le comprend comme ça même encore aujourd'hui. Elle a un rapport au corps qui est il faut que mon corps m'appartienne, que j'en fasse ce que je veux, on m'a bridée pendant des années, maintenant je vais me mettre nue sur Insta. Alors que Alizée, par exemple, elle a pu dire par rapport à sa chanson Lolita que finalement c'était un peu comme un rôle au cinéma. Donc ce qu'on entend pour moi à ce moment-là, c'est que le sous-texte, c'est oui, j'ai conscience que c'était un peu limite comme parole, mais voilà, je me suis mise dans un rôle, c'était pas moi qui chantais. Alors que pour le coup, Britney, je pense que c'était vraiment elle, tu vois, qui chantait et qui avait envie d'aller aussi vers ces sujets-là. Mais bon, c'est des sujets compliqués, très compliqués.
Et là-dessus, enfin, c'est, je pense que dans la musique, il y a l'objectisation du corps de la femme qui est quand même hyper exacerbée. Et en effet, il y a certaines où ça va être une manière aussi d'exprimer une forme de liberté, de raconter quelque chose sur des notions de libération du corps ou de sexualité, etc. Mais je pense qu'une des différences, c'est après le traitement médiatique, et là c'est le cas pour Britney Spears bien sûr, mais le traitement médiatique qui est fait de leur carrière et de comment même à des niveaux plus bas, on va surtout, enfin plus bas en termes de notoriété, je veux dire, on va surtout questionner les femmes artistes, c'est-à-dire souvent dit les femmes musiciennes ou juste les musiciennes, sur c'était leur cas pour le cas des stars, sur leur sexualité, sur Britney Spears, il y avait tout un truc autour de sa virginité, si je me trompe pas, enfin
tous
ces trucs là, juste sur leur vie perso, sur leur couple ou pas couple, etc. Alors que les mecs, on va beaucoup plus leur parler de leur façon de produire la musique, comment ils ont composé, enfin on va leur parler de la musique en fait. Donc ça, ce traitement médiatique, il est aussi extrêmement différent, et je pense qu'il joue beaucoup sur derrière l'impact pour même la santé mentale de ces musiciennes là et leur parcours et comment elles arrivent à sortir et à évoluer dans les différents rôles qu'elles ont au fur et à mesure de leur carrière, quoi.
D'un point de vue engagement, de ce fait, parce que là je vous ai lancé sur vos chanteuses, musiciennes préférées de l'époque ou de maintenant, mais il y avait aussi l'idée de comprendre en fait que ça pouvait être deux personnes différentes. Il y a celle qui nous a marqué plus jeune peut-être, et celle qui vraiment nous a marqué par ses engagements. Donc on a posé la question à Ellie, et donc qui revient en fait là-dessus. Donc évidemment Beyoncé, ça paraît, enfin oui, il y a quelque chose de l'ordre de la grande évidence que de dire qu'elle est engagée, mais elle s'est souvenue que Shania Twain avait, avec une chanson, et je vous l'offre, Man, I feel like a woman.
Ça, très bonne chanson.
Ouais. Mais je ne m'en souvenais pas. Et j'avais oublié. Enfin, en fait, non, c'est même pas que j'avais oublié, c'est que je pense que je ne m'étais pas rendu compte.
Ouais.
Et c'est exactement ce qu'Ellie dit. C'est qu'en fait, elle était passée à côté du pouvoir politique, en fait, de cette chanson. Et ça pourrait... Enfin, j'imagine que dans pas mal, en fait, de groupes, de chanteuses, en tout cas, on pourrait peut-être... maintenant, avec notre regard plus aiguisé, ou en tout cas en y faisant attention, déceler peut-être des textes plus engagés que ce qu'on l'entendait en fait à l'époque aussi.
Mais oui, tout à fait. Ou tu vois, pour reprendre un exemple plus récent, du coup, tu parlais de Beyoncé de nouveau. Bon, après, moi, c'est aussi un peu mon parti pris. Mais dans le livre, je reviens sur Who Run the World Girls, qui a été vue un peu comme sa première grande chanson féministe. En vrai, je trouve que quand on regarde les paroles, c'est un peu bizarre comme chanson de dire que ce sont les femmes qui dirigent le monde alors que c'est juste pas le cas. Et du coup, quel est le message envoyé ? Ça donne un peu l'impression qu'il n'y a plus rien à faire. Et je trouve que parfois, c'est certaines de ces chansons les moins connues qui vont être les plus intéressantes, en fait. Ou même la chanson où elle cite un extrait d'un discours de Chimamanda Ngozi Adichie. Pareil, à un moment, elle demande aux femmes de s'incliner devant elle et tout. Parce que c'est très féministe, elle répète beaucoup de fois « bow down bitches » dans la chanson, etc. Bon. Mais c'est vrai, c'est marrant, parce qu'on peut avoir une lecture collective d'une chanson, et en fait, ça va avec n'importe quel type de cliché, tu vois, où on va pas venir le questionner, on va partir du principe, bah, tu vois, typiquement Shania Twain, « oh, bah, c'est de la country pop un peu sympa, mais il n'y a pas beaucoup de messages derrière », alors qu'elle a fait son trou, elle a galéré, c'était quelqu'un qui s'en prenait plein la tronche, notamment parce qu'elle a apporté des éléments pop à la country, et alors je ne sais pas si elle s'est toujours décrite féministe, je ne sais pas d'ailleurs si elle se le dit aujourd'hui, mais qui était dans cette idée de dénoncer les doubles standards sexistes entre hommes et femmes dans la musique, tu vois. Mais il y a tout un... En fait, c'est... moi, par exemple, c'est vraiment ce qui m'est beaucoup venu en faisant des recherches sur ce livre, pour ce livre, c'est en me replongeant en fait dans des archives, dans des interviews et en allant vraiment lire, tu vois, des paroles un peu à la loupe, que tu te rends compte que t'es passé à côté de plein de choses ou qui, tu vois, n'ont pas été mises en avant par les labels. Après, ça, c'est du marketing aussi. Mmh. Mais pareil, Britney, quand on regarde ses premiers albums, en réalité, t'as l'impression qu'elle savait déjà un peu tout ce qui allait lui arriver avec des chansons comme Overprotected ou des choses comme ça où elle demandait justement lâchez-moi un peu la grappe. Je vais faire des erreurs, c'est normal, c'est aussi ça de grandir. Et après, on sait ce qui s'est passé. Mais bon, je pense que ça va aussi avec le fait qu'on prête moins d'attention à ce que disent les femmes de manière générale. Du coup, on fait moins attention aux paroles aussi de ces femmes-là. Aussi, oui. je pense qu'Élise me rejoindra là-dessus. On a beaucoup, déjà de base, quand t'es une femme et que tu veux faire de la musique, c'est très difficile. Il y a beaucoup cette critique de, par exemple, en parlant de Beyoncé, « Oh, mais c'est surtout une interprète, elle n'écrit pas ses chansons. » Donc, tout de suite, ça veut dire que sa musique ne vaut rien et qu'elle ne vaut rien. Et quand bien même vous écrivez vos chansons, on va venir douter que, « Ah, mais est-ce que c'est vraiment elle qui les écrit ? C'est quand même bizarre, etc. » je trouve qu'on... Enfin, voilà, c'est un art qu'on délégitime beaucoup et qu'on prend de haut. Et c'est aussi une discrimination, je trouve, qui est très... Enfin, un cliché qui revient beaucoup... chez les artistes, enfin à propos des artistes femmes en tout cas, sur leur message quoi, ce qu'elles peuvent dire dans leurs chansons. Mais...
Du coup, je me refais un peu les tubes de nos adolescences et tu vois, je pense qu'on mesure pas le message de sororité de ma meilleure amie de Laurie. Et je pense que tu vois, j'avais sous-évalué.
Mais oui, de ouf.
Finalement.
Et je dis ça alors que moi, quand j'étais ado, je détestais Laurie parce qu'elle sortait avec Billy Crawford. J'étais amoureuse de Billy Crawford, du coup, je la détestais.
La rivalité.
Voilà. Mais oui.
Transition parfaite.
Oui, mais c'est vrai que... et tu vas l'explorer... très largement, en fait, tous ces liens-là, parce que, en fait, ce titre, Féminisme et musique, il va pouvoir être compris à différents endroits. C'est-à-dire, d'un côté, la façon, en fait, dont les femmes font de la musique, mais aussi la façon, en fait, dont les féminismes ont filouté le milieu au fur et à mesure. Mais c'est quelque chose, en fait, qui est en deux temps et qui, parfois, est même contradictoire. Parce que c'est vrai que, on a beaucoup parlé de Beyoncé, on va continuer un petit peu, mais il y a ce côté où, au final, les messages, notamment sur l'antiracisme, elle a quand même fait quelque chose d'assez fou. Mmh. Donc, tu as bien noté qu'il y a des endroits un peu bizarres quand même. Et pour autant, en fait, elle fait un féminisme qui lui ramène quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre du monétaire, en fait, qu'il faut jamais oublier. Mmh. Et donc, en fait, il y a quelque chose d'aller peut-être parfois, en effet, utiliser peut-être ces mouvements-là pour s'enrichir. Et les dynamiques, elles peuvent être un peu troubles. Et donc ça, tu vas l'expliquer à différents endroits, en fait, de dire à partir du moment où on est en train de parler des stars, faut pas oublier qu'on parle de beaucoup, beaucoup d'argent.
Ouais.
Mais en même temps, que des femmes gagnent beaucoup d'argent parce qu'elles font... de la musique, c'est bien aussi.
Oui, c'est rare d'ailleurs. Oui, mais c'est rare. Mais c'est pas le nerf de la guerre, mais à chaque fois que j'ai fouillé dans mon livre pour un peu aller chercher, trouver les contradictions, notamment entre les discours des chanteuses et leurs actes, par exemple, on en revenait toujours à la question de l'argent, en fait. C'est-à-dire que elles ont beau se dire féministes, etc., tu sens que L'argent finit quand même par primer. Par exemple, Beyoncé, elle s'est produite à Dubaï en début d'année pour 24 millions de dollars pour l'ouverture d'un hôtel privé. Dubaï, on sait très bien comment ça se passe pour les femmes, les minorités LGBT là-bas. En plus, elle venait de sortir son album Renaissance, qui est complètement inspiré des scènes ballroom, donc des scènes LGBT, minorisées, etc. Donc là, on se dit quand même que bon, là, c'est gênant. C'est gênant et c'est décevant. Parce que tu te dis, bon, bah, finalement, un chèque de 24 millions, voilà ce que vaut l'engagement, tu vois. Et c'est compliqué parce que, en fait, mais ça va avec le fait d'être un fan, c'est que t'as envie de te dire que ta star préférée est parfaite et qu'elle est super et que, par exemple, dans le cas de Beyoncé, il y a des gens qui l'ont défendu mordicus en mode mais arrêtez, vous faites le jeu justement de l'antiféminisme et du racisme, de la critiquer parce qu'elle est allée jouer à Dubaï, est-ce que c'est si grave que ça, etc. Alors qu'en réalité, ces stars ne sont pas nos amies, on les connaît pas vraiment. En fait, on connaît d'elles ce qu'elles veulent bien nous montrer. Et c'est dur, hein, de se le dire, hein. Ça fait chier, hein. Moi aussi, hein, j'ai envie de me dire que Beyoncé et Taylor Swift, je pourrais aller bruncher avec elles quand je veux. Sauf que ça n'arrivera jamais. Parce qu'en fait, on a des vies profondément différentes. Elles ont des vies de grands PDG, en fait. Enfin, déjà aussi, ça pose la question environnementale. J'ai pas pu l'évoquer dans mon livre, mais c'est un peu des rythmes de vie absurdes, enfin, qu'on dénonce de plus en plus, quoi. Mais voilà. Et cette question-là, elle revient tout le temps, en fait, la question de l'argent, et elles réfléchissent pas trop en termes de répartition de richesses, etc. Je trouve qu'une des seules, mais là, je l'évoque pas dans le livre, du coup, parce que elle est pas dans la pop, mais par exemple, la rappeuse Cardi B, elle, pour le coup, s'interroge beaucoup sur comment je gagne mon argent, mais est-ce que j'en gagne pas trop. Elle milite pour, genre, l'éducation gratuite aux États-Unis, un accès aux soins, enfin... Et c'est une des seules, vraiment, à son niveau, à se poser ces questions-là, en fait. Les autres ne se posent pas cette question. Et mais c'est aussi le produit d'une mentalité américaine très libérale, qui est que, ben, pour elle, être féministe, c'est aussi, ça passe aussi par l'argent et gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et il n'y a pas de limite, en fait. Il n'y a pas de limite.
Et toi, Élise, ce que de ce fait, donc on l'a entendu, hein, à un moment donné, Britney, elle disait, oui, et t'es partie vers les scènes plus émergentes, plus indées. Et là, enfin voilà, t'es directrice du Grand Mix, qui a aussi une programmation vraiment très singulière à ces endroits. Alors, dire que vous ne recevez pas de stars, ce serait faux, mais souvent vous êtes avant même...
C'est les stars de demain.
Mais exactement ça, tout le principe de l'émergence. Mais bon, moi je me souviens quand même avoir vu des groupes fameux, et on était une petite salle, enfin voilà, avec un contact quand même assez unique. Donc est-ce que tu peux rebondir sur cette question d'argent qui doit quand même être vraiment encore à un autre endroit, en fait, de ces groupes-là, du rapport des femmes, en fait à leur échelle, enfin qui est complètement différent d'une Beyoncé ou enfin ou peut-être pas, j'en sais rien en fait.
Je suis pas sûre d'avoir compris la question. Je suis désolée.
Je reformule. Ouais. Pas de problème.
C'est vrai que les questions d'argent sont moins, c'est pas 24 millions, ça c'est sûr. J'aimerais bien qu'on les ait. On ferait des trucs trop cool. Mais enfin, nous c'est sur, nous c'est des montants de sessions, donc les sessions, c'est comme ça qu'on appelle le montant qu'on donne aux artistes pour jouer, mais ça passe par des boîtes de tourneurs de toute façon, sauf pour les artistes locaux. Bref, c'est pas le sujet, je m'égare. Mais ouais, je suis pas sûre de bien comprendre.
En fait,
tellement
vous êtes à deux endroits. Ouais. Mais voilà, parce que là, de ce dont on a parlé, donc l'hypersexualisation, l'empouvoirment d'une certaine manière d'une partie en fait des chanteuses qui va crescendo avec l'argent qu'elles peuvent aussi récolter. Mais c'est une image de la musique qui, comme tu le disais, Morgane, est très américaine au final. Ouais. Et toi, j'ai l'impression que de ce fait, tu vas avoir un pendant. Alors. Peut-être moins américain, en tout cas peut-être plus européen déjà, et à une échelle complètement autre, puisque sur une scène émergente. Mais...
Je veux dire, elles éclipsent finalement ce qui est la vraie réalité du métier, qui est que c'est hyper difficile et précaire.
Y a plein de réalités de façon dans l'industrie de la musique, parce qu'il y a des personnes qui vont faire beaucoup de sous très vite et d'autres qui vont correctement vivre toute leur vie, notamment grâce au régime intermittent. Et. Puis d'autres où ça va être très précaire. Enfin bon, ça, c'est clair qu'il y a des tas de réalités. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Ouais, non, la grosse différence est là où... et on reviendra après plus longuement là-dessus, je pense, mais là où on arrive à aller plus loin sur les problèmes de sexisme et de manque de visibilité des femmes et des minorités de genre dans la musique, etc. C'est notamment grâce à, quand même aux subventions et au fait que ça permet plus de prise de risque, même si on est très loin de la parité au grand mix, hein. On a encore grave de taf, parce que c'est toute une industrie aussi qui doit bouger pour avoir des... Parce qu'il y a toute une logique à avoir, d'une part, des groupes qu'on peut programmer où on va pouvoir vraiment pousser de l'émergence, d'autre part, quand même, des enjeux de remplissage et où bah, pour l'instant, il n'y a pas encore autant de groupes, en tout cas avec des leads féminins, qui permettraient d'être complètement paritaires par rapport à nous, nos enjeux de programmation. Mais pour réfléchir plus globalement sur l'industrie de la musique en France... Là où ça bouge, c'est notamment grâce à aussi des subventions ou des formats institutionnels qui font qu'on a des obligations sur ces sujets qui sont plus forts, notamment le protocole CNM, et ça pareil, on pourra revenir un peu là-dessus sur plus la partie sexisme et agression aussi du côté des publics, tout comme des artistes. Mais ça reste lent et on sent qu'en tout cas, sur la partie vraiment la plus capitaliste, l'industrie de la musique... Si on sort un peu plus des lieux subventionnés comme c'est le cas pour le Grand Mix, ça met aussi du temps à bouger pour ces raisons-là, parce que du coup, ça reste quand même un système très, très, très industriel, très sur des notions de faut faire vite de l'argent, et donc tu tombes vite sur des trucs très commerciaux où soit la femme reste sur quelque chose de très objectisé, soit à la limite, ça va être le féminisme qui va devenir une forme de marketing. T'as des effets de tokenisation, c'est-à-dire d'être là à représenter la cause parce que justement t'es une femme, voire t'es une femme racisée, ou tu vas représenter la communauté LGBT, et qu'il y a des labels qui vont se dire « bon alors là, c'est cool, faut qu'on ait quelqu'un qui représente la communauté LGBT, là faudrait qu'on en fasse, qu'on réponde à telle attente, parce qu'il y a aussi un engouement sur ces questions du côté de la jeune génération ». Donc en tout cas, de réussir à décrypter dans quelle mesure ça bouge vraiment, c'est compliqué, ça demande une analyse un peu comme tu as pu le faire, enfin du temps, quoi, des vrais temps d'enquête. Mais pour l'instant, le changement il reste en surface, et le côté très industriel et très capitaliste de l'industrie fait que le capitalisme est quand même encore un système assez patriarcal, et que ça va mettre du temps à bouger. Je sais pas si j'ai vraiment répondu.
C'est chouette parce que je dis souvent pour la franchise, on peut pas dénoncer le système et en profiter. Et j'ai l'impression en fait que quand on est, enfin, je ne questionne pas du tout la sincérité. Enfin, je veux dire, voilà, chacune fait comme elle peut ou comme elle veut. Mais il y a quand même un endroit quand on dénonce vraiment le capitalisme, on peut pas faire beaucoup d'argent. Parce qu'on peut, enfin, on n'est pas
oui,
sur les voies.
Bizarre.
Voilà, c'est ça. Nous ici, nous sommes pauvres, une librairie pauvre. Mais en même temps, je pense que c'est le meilleur compliment qu'on puisse nous faire. C'est qu'on ne gagne pas d'argent sur le dos de nos engagements. On survit. Et il y a parfois, voilà, une dynamique comme ça qui pourrait être aussi pensée. Alors évidemment, heureusement qu'il y a des systèmes, comme tu l'expliquais, de subventions et d'accompagnement qui font que ce travail-là est quand même rémunéré. Parce que voilà. Il faut vivre et manger. Mais
en France, le régime de l'intermittent, c'est hyper, enfin, c'est assez unique au monde, quoi. Ça il me semble. Donc,
ouais, complètement.
J'ai posé, nous avons posé la question à Eileen sur cet endroit de la révolution de la musique, immédiatement, en fait, elle nous a parlé du spectacle Dogo, donc qui est passé récemment dans la programmation de La Rose des Vents, et qui est un spectacle jeune public pour lequel, en fait, elle a choisi de n'être entourée que de femmes. Donc, ce n'était qu'une équipe de femmes. Et ça, typiquement, en fait, est-ce que c'est des choses que vous voyez plus arriver depuis notamment MeToo et plus particulièrement MusicToo, donc qui est l'équivalent dans les milieux de la musique, où c'est des démarches qui, j'imagine, pourraient être rêvées, difficiles à mettre en application, ou quel est votre avis sur ce point de vue radical ? Que des femmes.
La réponse B, c'est rêver et pas toujours simple à mettre en application, dans la mesure où je connais pas mal d'artistes locales qui montent leur projet, qui espèrent en vivre ou qui en vivent déjà et avoir vraiment une carrière nationale, et qui veulent s'entourer plutôt de musiciennes sur tous les postes, enfin soit à la batterie, à la basse, etc., et d'ingé son aussi, par exemple. Et en fait, c'est dur de trouver cet entourage-là, parce que aujourd'hui les musiciennes se sont plutôt construites sur, déjà sur le fait d'être au chant. Enfin, je vais citer un exemple précis. Moi, j'étais dans une asso Louder qui était sur les femmes et les minorités de genre dans la musique. On avait lancé un appel à participation pour faire une création en mettant 10 musiciennes dans une salle de concert et faire une création collective en 4 jours. On avait reçu la première fois 90 candidatures, 89 chanteuses. Et qui faisaient des instruments à côté, bien sûr. Mais d'abord, c'était leur projet lead solo au chant, avec certaines au synthé, d'autres à... Il y avait des percussionnistes, la MAO, etc. Donc, il y avait, ça nous a permis de monter un collectif trop cool, éphémère sur cette création-là. Mais néanmoins, vu que dans le rapport à la musique, dans comment on se construit en tant que femme, en tout cas sur nos générations et les précédentes dans le rapport à la musique, c'est souvent en solo, parce qu'il y a beaucoup moins cette culture du groupe. Donc, tu chantes et puis tu fais de la guitare ou du piano ou autre chose. Mais en tout cas, tu t'apprends à te débrouiller, à t'accompagner. Souvent, tu es une bille en technique parce qu'on t'a pas dit que c'était possible que tu te débrouilles là-dessus et que tu mixes un jour tes morceaux. Donc, ça met du temps après d'aller déconstruire tout ça et de s'outiller. Et du coup, ça fait qu'il y a peu de femmes à la batterie, peu de femmes à la basse ou sur d'autres instruments. Ça commence à arriver, on en voit, c'est cool. Mais elle reste, franchement, sur des carrières nationales, elle reste quand même... Dans le format vraiment musique actuelle, moi, que je connais, assez rare, voire même pour certains postes, elles se comptent sur les doigts de main d'avoir vraiment des carrières qui tournent dans des lieux comme les nôtres ou plus gros. Et donc, ça met du temps et ça peut pas être une volonté de se dire... Enfin, si, ça l'est, évidemment. Il y a d'abord une volonté de se dire « je veux être entourée que par des musiciennes », mais ça marche pas toujours à tous les coups et c'est... Faut prendre le temps de l'entourage et qu'il y ait les personnes sur ton territoire après, qu'elles soient pas forcément à Paris, parce qu'il y a quand même beaucoup d'artistes à Paris. Mmh. Donc, pas si simple. Mmh. Mais ça arrive, et il y en a plusieurs qui font ce choix. C'est le cas de Lucie Antunas, qui était quasiment accompagnée que par des femmes, sur scène. Donc, elles sont plusieurs quand même.
Mmh. Et ce qui me fait penser, c'est que tu cites son exemple dans ton livre à Flore Benguigui,
oui.
Qui, malgré le fait qu'elle soit l'impératrice, ouais. Donc, qui est quand même un groupe où elle est la seule dans mon
oui.
souvenir,
ouais, ouais, ouais.
Elle a lancé son podcast qui reprend en fait des séances réelles, donc vous pouvez assister à Paris notamment à ces événements qui s'appellent Chercher la femme,
ouais.
Et qui a un discours aussi dans cette démarche-là de s'accompagner au maximum de femmes.
Oui, Flore Benguigui, du coup, donc c'est la chanteuse de l'impératrice, et elle est féministe, et elle est très engagée sur ces questions-là. Elle a témoigné, dans la vague MeToo en France, etc. Et pour elle, par exemple, ce podcast, c'est aussi dépasser, entre guillemets, pas le simple fait, mais le fait de dénoncer et essayer un peu d'être actrice du changement aussi, ou en tout cas de participer à réhabiliter, notamment là dans le cadre de ce podcast, des musiciennes qui sont méconnues dans l'histoire de la musique, etc. Et elle est soutenue par Tsugi Radio, je pense que c'est bien de le dire, parce que c'est un petit média indépendant, etc. Mais oui, comme disait Élise, quand on a des chanteuses qui sont entourées que de musiciennes, c'est jamais par hasard. C'est que ça a vraiment été une volonté et que, en fait, ça a été une forme de discrimination positive, en fin de compte. Mais ça va jamais se faire de manière naturelle, organique, déjà parce qu'il y a beaucoup moins de musiciennes que de musiciens. Mmh. Et du coup, rien qu'à cause de ça. Et puis parce que c'est pas toujours pas vu comme la norme, quoi. Mmh. Donc en général, si vous voyez une chanteuse entourée de musiciennes, c'est qu'il y a une volonté, je pense, normalement féministe derrière, mais que ça a demandé du travail, quoi. Mmh. Ça a pas dû se faire très simplement.
Mais est-ce que précise Élie, dans cette expérience qu'elle a vécue avec Dogo, c'est de vraiment d'avoir vécu en fait quelque chose d'une écoute, d'une communication plus fluide et surtout plus horizontale. Mmh. Et c'est vrai que s'il y a bien un milieu où on a l'impression que c'est très pyramidal, là pour le coup, avec quelque chose de très dominant en fait, c'est celui de la musique. Elle donne en fait des exemples après de choses où de moments où quand elles arrivent pour présenter le spectacle, les équipes qui sont des hommes, de ce fait des salles qui les accueillent, ont quelque chose d'un mépris en fait, parce qu'évidemment puisque ce sont des femmes, elles ne sont pas censées savoir ce dont elles parlent, donc leur avis prédomine et elles se rendent compte qu'au final c'est un endroit de défense en fait de ces hommes qui ne savent pas en fait de quoi ils sont en train de parler et qui sont un peu malaisants parce qu'ils veulent essayer de montrer qu'ils gardent la main, la domination, etc. Ce qu'elle nous explique là, c'est quelque chose qui a l'air tellement basique dans les rapports, en fait, du spectacle en général, parce que je pense qu'on pourrait mettre ça au théâtre, au cinéma, etc. Et donc, ça doit être... Enfin, j'ai l'impression qu'encore une fois, on est sur un double tranchant, c'est-à-dire que oui, il y a des choses qui ont été mises en place par les femmes dans la musique, mais que malgré tout, puisque le milieu, comme tu le disais, Élise, évolue quand même tout doucement, bah, les femmes se retrouvent, en fait... face à des équipes plus vieillissantes, ou pas que, hein, c'est l'âge à bon dos souvent, mais enfin, que ça peut encore être source de violence, en fait, évidemment.
Oui, par exemple, je sais qu'il me semble que c'est Clara Luciani qui avait témoigné de ça, quand elle allait jouer quelque part, on allait la reprendre sur « Ah, bah, tu utilises telle pédale, non mais tu devrais plutôt faire ci, faire ça », ou je sais plus quelle chanteuse avait parlé de ça, une musicienne de... un technicien qui genre avait changé ses réglages sans lui dire, tu vois. Mmh. Et donc du coup, elle a commencé le concert, elle était genre là, je comprends pas ce qui se passe, c'est pas comme ça que j'avais réglé le truc. Et ça c'est encore très très fréquent et je pense que le problème avec ce genre de réflexe, c'est que c'est... parfois ça part d'une bonne volonté, mais en fait, ils se rendent pas compte que c'est complètement condescendant et que c'est pas leur place en fait. Mmh. Et qu'au bout d'un moment, si elles sont sur scène, c'est qu'il y a une raison et que c'est pas des petites filles qui ont besoin d'être accompagnées par la main. C'est des pères, quoi, c'est leurs égales, mais ouais, je pense que ça, par exemple, c'est des réflexes qui prendront du temps à disparaître encore maintenant, parce que c'est très, très, très imprégné.
Ouais, c'est beaucoup sur la technique, c'est clair. C'est énorme, comme comme il y aura vachement ce réflexe-là d'aller régler le micro de la meuf, alors qu'elle sait le régler elle-même. Et il y a un article pour ça qui est hyper bien, qui explique très très bien ce processus, c'est pourquoi tu parles jamais musique avec ta meuf, je crois que il s'appelle comme ça, et ça décrypte bien ce phénomène. Et justement, il y a pas mal d'initiatives qui se montent, nous on en a déjà fait, bah, du coup avec mon collectif précédent Louder, là on en refait aussi avec Le Grand Mix et d'autres assos, je sais que My Woman on Stage en font également. C'est des ateliers, en fait juste des workshops en mixité choisie sur de la technique ou sur du mix, ou justement sur tous ces sujets où il y a le plus de freins qui sont identifiés pour les musiciennes et pour les techniciennes aussi, hein, d'ailleurs. Je crois qu'il y a des formations de backlineuses là, qui ont été lancées par More Women on Stage, qui permettent de prendre confiance sur ces sujets en étant en mixité choisie pour ensuite être dans un secteur mixte, parce que c'est le cas, et en plus sur la partie technique et artistique, c'est très très masculin, mais pour vraiment s'outiller et pouvoir contrer après mieux défendre ces actions-là qui sont malheureusement encore d'une banalité sans nom.
Oui, mais pour donc tu parlais de vos initiatives, et donc Élie partage avec vous un dispositif, enfin avec nous tous, un dispositif dont elle est la marraine, qui s'appelle le super groupe Grrr Camp, donc pour Riot Girl, porté par la SMAC, S-M-A-C, Bonjour Minuit à Saint-Brieuc. Et donc voilà qui est un peu le principe que t'expliques, d'être ensemble pour apprendre les choses et... dans une sororité, un partage de connaissances, encore une fois, sur quelque chose d'une horizontalité, en fait, hein, qui devrait être le sens de la vie, je pense, beaucoup plus. une chose que j'avais remarqué et dont on a parlé un petit peu avant, c'est que récemment, alors même si on peut dire en effet que Musique Tout, c'est pas un... Voilà, c'est pas 100% de la réussite. Ça a fait bouger un chouïa au niveau, évidemment, des dénonciations. Mais derrière, bah, c'est comme beaucoup du mouvement MeToo. Ben, y a pas eu énormément de gros changements, en tout cas, dans les gros labels, dans les gros... c'est encore une fois une question un peu bigou. C'est qu'il y a d'un côté des vraies choses qui ont bougé, et de l'autre, des choses qui n'ont vraiment pas bougé. J'ai l'impression que malgré tout... Et tu as déjà commencé à en parler, Élise, le principe, en fait, de prévention, de faire plus attention à l'accueil des spectateuristes, mais aussi des équipes artistiques dans les salles ou les festivals, etc., est un peu plus pris en charge. C'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance aux gens pour avoir des bons comportements. On les prévient d'abord qu'il faut avoir des bons comportements. Enfin, on est dans ce monde-là, mais en tout cas, il y a des initiatives assez chouettes qui ont été mises en place, j'ai l'impression... un peu partout.
Ouais, il y en a eu pas mal en France, en tout cas. Déjà pour celles qui savent pas, en gros, MeToo a pas pris dans la musique tout de suite, ça a pris du temps. Ça a été la même chose en France. Et on a eu un mouvement qui s'est appelé Music Too, donc qui est vraiment parti de Me Too, mais dans la musique. Et là, il y a eu un peu un effet boule de neige, parce que ça a eu lieu plutôt dans la période Covid, donc c'était le moment où les salles de concert étaient fermées, on était tous les uns chez les autres, il n'y avait pas de festival. Donc je pense que le contexte aussi a fait que les femmes ont plus osé prendre la parole publiquement qu'auparavant, parce que il y avait ce côté où si je dénonce tel mec, je vais pas le retrouver à un concert de sitôt, donc je me sens là le courage de le faire. Et en réponse à Music Too, t'as plein d'initiatives qui se sont créées. J'en cite pas mal dans le livre. Par exemple, l'association Change de Disque, voilà, qui voulait notamment s'attaquer au problème du sexisme dans l'industrie musicale. T'as aussi la journaliste Lola Levent qui a créé sa plateforme qui s'appelle Diva, D-I-V-A, où à la base son idée c'était de recueillir des témoignages et puis finalement elle l'a transformée en société de management d'artistes féminins, féministes, LGBT, etc. Et en même temps, quand on fait un peu le bilan aujourd'hui, c'est un bilan un peu doux, amer, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont pris fin, en fait, très vite, au bout de 2 ans, où tu vas sur leur compte Instagram, etc., et il se passe plus rien, tu sais pas trop pourquoi. Il y a eu certaines personnes qui ont été attaquées en justice, comme justement le collectif Musique Tout France, ouais, qui s'était organisé pour recueillir anonymement beaucoup de témoignages, et ils ont travaillé avec des médias comme Mediapart pour faire sortir des enquêtes, etc. Ils ont été attaqués en diffamation. Finalement, enfin, c'est pas qu'il y a eu une relaxe, mais en gros, le manager qui les avait attaqués a laissé tomber au bout de l'appel. Enfin, bon, bref, voilà. Enfin, bon,
ça leur a quand même coûté cher.
Ça leur a coûté cher. Ils ont dû faire des soirées pour justement faire un peu une levée de fonds pour les aider à faire face aux frais judiciaires. Enfin, bon, les procédures bâillon, quoi, comme on connaît bien. Et donc, il y a quand même un peu, je trouve, quelque chose d'un essoufflement, j'ai l'impression, mais qui illustre aussi, en fait, le backlash qu'on commence à vivre. Et on en parlait pas mal avec Élise tout à l'heure, avant le début de la rencontre. C'est, tu vois peu à peu des hommes qui ont été accusés de violence, qui, 98% du temps, n'ont pas été condamnés à quoi que ce soit, et qui reviennent, en fait. Et ils sont en train d'être réabsorbés, entre guillemets, dans la scène culturelle, un peu comme si de rien n'était, voire parfois on leur déroule le tapis rouge. Et c'est un peu... Ouais, c'est un peu désarmant, mais bon. C'est pour ça qu'il faut pas lâcher aussi. Mais effectivement, moi, ça m'a un petit peu désarçonné, en tout cas, de voir qu'il y a eu toute une pépinière d'initiatives ces dernières années, mais qu'il y en a beaucoup qui ont déjà mis la clé sous la porte 2 ans après, quoi. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, ça reste un système qui est profondément patriarcal et capitaliste, et... C'est compliqué d'en venir à bout. Ça allait pas se faire en 2 ans en même temps, quoi. Mais on va dire qu'il y a encore beaucoup de travail, quoi.
Je trouve qu'il y a 2 trucs positifs et un truc où c'est plus compliqué. Là où ça a vraiment bougé, c'est quand même, sans tomber du tout sur des trucs trop institutionnels, mais sur le secteur qui est un petit peu plus subventionné, et aussi sur... je reviendrai après sur le protocole CNM, qui est quand même hyper important, je trouve, dans la musique. Mais secteur subventionné, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même plein d'initiatives qui se montent dans des lieux comme le Grand Mix ou ailleurs, notamment à Bonjour Minuit à Saint-Brieuc, de temps en mixité choisi pour les musiciennes, pour des futures techniciennes, etc., pour vraiment être c'est quand même assez militant. Et ça, moi, je vois, avec Louder, à un moment, on avait commencé à avoir des subventions pour des temps mixité choisi, c'était plutôt vers 2018, je dirais. Les financeurs, ça posait quand même question. Il y en a qui nous disaient, on va pousser le dossier, mais on ne sait pas si les élus vont valider, parce que du coup, c'est que pour les femmes, c'est une forme de discrimination. C'était encore assez complexe comme type de proposition collective à aborder. Alors qu'aujourd'hui, c'est carrément OK. Il y a même une commission au CNM, commission égalité, où il y a, je ne sais même plus le montant total, alors que je suis dans ces lentes, mais je crois qu'il y a 1,8 million de budget, ce sera vérifié. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de sous faits pour les initiatives féministes à destination des musiciennes, des techniciennes, des professionnels. Donc c'est, aujourd'hui, c'est institutionnalisé, donc je trouve ça très positif. Le protocole aussi qui est obligatoire maintenant pour toucher des subventions de cette grande institution, c'est de mettre en place un protocole de prévention des risques des violences sexistes et sexuelles, donc d'avoir... vraiment quelque chose de pensé dans la salle de concert, mais aussi dans toutes les structures, labels, maisons d'édition, etc. Édition phonographique, côté musique toujours, sur comment le gérer en interne en cas de problème. Bon, on va dire que ça rejoint le droit du travail, mais disons on peut dire qu'aujourd'hui, on dit vraiment qu'il faut appliquer le droit du travail et que du harcèlement sexuel, c'est faut mettre les mots dessus quand ça arrive, et qu'on est dans un secteur qui est beaucoup lié au milieu festif, à l'alcool, également à la drogue, etc., qui engendre aussi des... qui participe, ça c'est clair, à des fonctionnements avec ce mélange pro-perso parfois malsain de climat de culture du viol qui est très fort. Donc ça c'est cool. Il y a également pas mal d'initiatives qui se sont montées quand même autour de certains artistes. Il y a le label Fraca, par exemple, qui a été monté par plusieurs musiciennes. Il y a Rebecca Warrior aussi qui a monté son label. Ça reste souvent assez individualisé autour de certaines musiciennes. Il n'y a pas encore des gros labels qui ont vraiment une volonté d'être entièrement dans la parité, qui se mettent vraiment cette ambition-là. Donc, c'est là où il y a encore du taf. Et là où, par contre, ça reste très, très compliqué, c'est sur le fait qu'on voit encore un Gérard Depardieu faire la tournée tranquille ou bilou. Un Patrick Bruel, enfin, qui a encore des agresseurs notoires qui peuvent évoluer dans une industrie de la musique qui continue de cautionner ça parce que bah, l'argent, enfin, parce que ça génère des sous et que tant que le système judiciaire n'est pas à la hauteur des défis des questions des violences sexistes et sexuelles, bah, il y aura toujours une partie de l'industrie de la musique qui se dira « Alors nous, en fait, la justice, elle n'a pas dit qu'on ne pouvait pas. » En même temps, il n'y a aucun texte de loi qui interdit à un moment quelqu'un de monter sur scène. Donc de toute façon, cet argument de « Oui, mais il n'y a personne qui l'a interdit » n'est pas du tout valable. Mais voilà, tant que ce n'est pas judiciairement fermé, ils vont y aller parce que bah, ça reste un business comme un autre et que ça... et qui vont se dire, enfin, qui trouveront toujours des bonnes excuses pour le faire, quoi. Donc, voilà, c'est là où, en fait, tant que la justice suit pas, de toute façon, l'industrie suivra pas, quoi.
Ouais, puis de toute façon, je trouve que les femmes sont toujours la variable d'ajustement, en fait, sur ces questions-là. Enfin, ça, c'est un truc que je défends dans mon livre, c'est que c'est assez net que, de toute façon, les femmes sont la priorité pour personne, sont la priorité de personne, elles le sont certainement pas dans l'industrie de la musique, donc... voilà, on pense toujours que un chanteur ou un musicien qui a pu s'en prendre à une fan ou à une autre musicienne, etc., c'est pas bien grave. Surtout s'il apporte de l'argent, c'est toujours ça qui est vu comme prioritaire, en fait. Et ça, tant qu'on changera pas aussi ce mode de pensée-là, c'est sûr que ça pourrait pas avancer.
Wow.
Il y a des notions de pouvoir. Après, plus il y aura de femmes, même si c'est pas... Il y a des femmes qui sont pas toujours féministes, ouais, évidemment, mais plus il y aura de femmes qui auront du pouvoir... Et là, il y a récemment, s'il y a une directrice à la SACEM, ça n'était jamais arrivé, je crois. Enfin, ça bouge quand même par endroits. Plus il y en aura, plus ça aidera quand même à que ce soit plus un boys club, en fait. Mmh. Et ça, il y a quand même des volontés. Oui. Même si, bon, après, ça ne marche pas toujours, parce qu'il y a aussi des femmes qui ont la flemme d'être encore à 45 ans dans ce milieu hyper concurrentiel, très masculin, avec tout ce que ça peut avoir de violent. Enfin, on voit aussi qu'il y a des effets, comme dans les grosses entreprises, de femmes passées un certain âge qui n'ont plus envie, en fait, d'être à ce type de poste, parce que ça peut être aussi très violent, mais... Ça, c'est peut-être une piste d'espoir, c'est de se dire bah faut que ce soit un milieu plus paritaire à tous les endroits, ce qui permettra de faire redescendre ce sexisme ambiant, quoi.
Mmh. Alors, pour terminer, et pour qu'on soit dans l'enthousiasme du partage, est-ce que vous pouvez nous parler d'un concert, d'un festival, d'une initiative musicale, d'un spectacle, trois petits points, porté par une femme, des femmes que vous avez hâte de vivre. Je ne sais pas, un concert qui va arriver ou dans la programmation du Grand Mix, quelque chose qu'on pourrait...
Je réfléchis. Un concert qui va arriver ou un concert qui a déjà eu lieu?
Bah, plutôt dans l'avenir, mais
plutôt
sinon...
Dans l'avenir. Écoute, pas, moi, par exemple, j'ai très hâte de voir Taylor Swift à Paris en mai 2024.
Parce que tu as une place.
J'ai eu des places, oui.
C'est beau.
Par privilège, hein. Je me suis battue pour les avoir, je précise. Ça n'a pas du tout été facile. Mais oui, parce que typiquement, ça, on n'en a pas trop parlé, mais... Enfin, ça, c'est... Enfin, c'est pas une thèse, mais je suis pas la première à le dire, mais la pop, c'est un genre musical qui est très méprisé, notamment parce que c'est un genre plébiscité plutôt par les publics féminins et LGBT. Et en fait, les concerts de pop, c'est trop cool parce qu'on est entre meufs et personne LGBT. Moi, un truc qui m'avait marqué, par exemple, c'était j'étais allée voir le concert de Beyoncé et Jay-Z quand ils faisaient une tournée commune en 2014. Et j'ai jamais vu autant de meufs stylées de ma vie au Stade de France. C'était incroyable. C'est-à-dire que sur le quai du RER B, tu comprenais tout de suite qui allait à Beyoncé. Elles étaient sapées comme jamais, talons de 12 et tout. Moi, j'étais genre, waouh. Et c'était cool parce qu'en fait, on est vraiment entre nous. Et ça, c'est un truc que j'aime bien dire aussi parce que, par exemple, voilà, des chanteuses comme Beyoncé et Madonna, on va leur reprocher de se sexualiser, de nourrir le male gaze, etc. Alors, peut-être que c'est le cas, par exemple, sur les vidéos, mais en concert, il n'y a que des meufs et que des publics LGBT. Donc vraiment, c'est super ambiance. Et on a beaucoup vu ça cette année, justement, avec la tournée de Taylor Swift, qui est un triomphe aux États-Unis, et le succès du film Barbie. Ils ont un peu été mis dans le même sac, au sens où il y a un peu ce retour de, entre guillemets, la girl culture. En tout cas, l'idée de créer des espaces, entre guillemets, féminins. Alors après, bon, faut pas tomber dans les stéréotypes de genre non plus, mais en tout cas, de s'autoriser à aimer des choses qui, de base, sont méprisées, notamment. Et ça, j'ai trop hâte, ouais. Tu vois, je vais prévoir des déguisements avec mes copines et tout, et on va bien s'amuser, quoi. Ça va être cool.
Ah, trop bien. Faudrait que tu nous racontes. Et toi, Élise?
Bientôt, on a le 13 décembre, si vous n'avez pas déjà prévu d'être à la rencontre trop cool qu'il y aura ici. On fait la présentation et écoute en exclusivité d'un podcast qui va sortir, qui est produit par Le Grand Mix et l'association Mermaids sur les musiciennes. Tout simplement, enfin sur les femmes dans la musique, avec vraiment la question aussi de l'agisme dans la musique et comment rester musicienne professionnelle en étant mère. Ou en n'étant pas mère, mais toutes ces questions-là. Et ouais, le sexisme, l'agisme, la sororité, enfin tout plein de sujets autour des femmes dans la musique. Et donc, on fait une écoute exclusive des deux premiers épisodes le 13 décembre, suivi d'un concert de la Mossa, qui est un chœur de femmes qui prend des chants traditionnels. C'est trop beau. Je vois que j'ai un regard pétillant en face de moi, où je sens que ça fait écho. Et en notre petit coup de cœur, on reçoit Clara Isée en janvier avec Ohio en première partie. Et là, j'ai beaucoup, beaucoup écouté l'album de Clara Isée. Je ne suis pas forcément très chanson en ce moment, mais elle m'a bouleversée dans ses morceaux. Et je recommande. Et Ohio, ça va être très, très beau aussi en première partie. Artiste local, chanson qui a beaucoup de talent. Mmh. Voilà. Donc, bon, ça fait très promo Grand Mix. Je vois d'autres concerts des fois, mais... Sorry. J'ai oublié les programmes, donc je comble comme je peux.
Non, mais c'est parfait. Et ça va rejoindre ce que... en décembre, il semblerait que j'aurais d'autres choses à faire que d'aller voir des concerts, hein, puisque la librairie va prendre tout mon temps. Mais en tant que Mère Noël, hein, n'est-ce pas ? Bien connue du nom. Mais par contre, j'assiste au... concert de Clara Isée au Grand Mix, donc je suis très ravie. Et la veille, parce que vous m'avez pas demandé, mais
oui,
vous
et toi, sois-y.
Je vais voir Charlotte Cardin qui passe la veille de Clara Isée au Sébasto cette fois-ci, et qui est encore une fois une grande histoire, parce que moi je la connais pour l'avoir vue dans l'AB Club, donc qui est vraiment la mini salle de l'ancienne Belgique à Bruxelles, où il y a 100 personnes. Enfin voilà, c'est les concerts un peu uniques qu'on a la chance de pouvoir voir de temps en temps. Et je ne savais pas du tout qu'en fait, elle avait participé à The Voice Canada.
Ouais.
Et qu'au Canada, puisque j'en reviens, elle est vraiment un peu regardée comme une sorte de grosse pop star avec parfois un chouïa en effet de jugement dont tu parles dans ton livre avec cet effet pop culture. Et je l'ai défendu corps et âme, bec et ongles, ce que vous voulez, en disant mais non, mais c'est super. Et donc peut-être qu'il y a des nouvelles fans au Canada, encore une fois par ma force de
quel talent.
Réécoute. Donc voilà, le mois de janvier sera plutôt pas mal. Donc merci pour toutes ces grandes pistes et ces belles discussions. Merci à Ellie qui a été avec nous dont nous avons en effet écouté les titres pour La Battue. Je vous encourage à l'écouter, c'est super. Et à suivre le spectacle Dogo qui doit, à mon avis, encore aller de ci, de là. Tout sera disponible sur les réseaux. Merci beaucoup Morgane.
Merci.
Merci beaucoup Élise.
Merci.
Merci Ellie et merci La Rose des Vents. Alors, heureuse? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie de Morgane Giuliani à l'occasion de la publication du livre « Féminisme et musique, la pop de Madonna à nos jours » aux éditions Le Mot et le Reste. Nous étions accompagnés d'Élise van der Heijgen, la directrice du Grand Mix à Tourcoing, et d'Ellie James du groupe La Battue. Merci à La Rose des Vents pour cette superbe collaboration. La Franchie Podcast, c'est Soazic Courbet à la conversation, Pierre-Antoine Nalin à l'habillage sonore et Léa Le Faucon pour l'univers graphique. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes avec La Franchie Podcast.
Yeah. Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.